deux sujets super intéressants à jaser ce matin. C'est une invitée qu'on reçoit de temps à autre dans l'Open Mic, Annie Boilard du réseau Annie RH. Avant de se lancer dans les deux sujets qu'on veut aborder aujourd'hui, soit, j'ai envie de dire, l'équilibre des familles par rapport au travail, la conciliation famille-travail et le prix de l'essence, j'ai envie de revenir avec Annie parce que, Annie, on te reçoit quand même depuis plusieurs mois, voire quasiment années, j'ai envie de dire. Là, on se jasait l'année passée. Fait que... Puis, je sens qu'il y a toujours des nouveaux auditeurs, il y a toujours des nouvelles personnes qui se joignent à Boulevard, à l'Open Mic. On a peut-être des auditeurs qui t'entendent pour la première fois, Annie. C'est niaiseux comme question, mais c'est quoi ta job? Pour les gens qui veulent te contacter, là, c'est Annie Boilard du réseau Annie RH. Là. Ça mange quoi en hiver, ça?
Je suis spécialiste en ressources humaines. Ça veut dire que souvent, on fait de la formation, développement des compétences. Ta question, les entreprises nous appellent pourquoi? Bien, ils nous appellent parce qu'ils ont des fois des gestionnaires qui ne sont pas tout à fait au point. Ils ont des employés qui voudraient parfaire leurs compétences. Alors, soit on nous appelle pour ça, ou encore parce que souvent l'entreprise fait face à des enjeux en ressources humaines, soit le respect de la législation ou des défis de mobilisation, d'attraction de ressources. Puis là, on nous appelle comme experts pour nous en demander de les accompagner. Fait que ça ressemble à ça, le métier de ressources humaines de RH, chère Audrey.
Si jamais vous voulez la rejoindre, en passant, c'est réseau-annie.ca. Puis nous, bien, on la contacte parce qu'on a toujours plein de questions sur le milieu, justement, du travail. Puis c'est des sujets qui nous touchent directement puis personnellement. J'ai envie qu'on commence avec tout ce qui est conciliation famille-travail parce qu'on est dans cette période-là où on vient de fêter la fête des mères. La fête des pères s'en vient en juin. Et le défi de conciliation travail-famille, c'est un défi qui est constant. Et là, tu as apporté un angle que je trouve super intéressant, Annie, celui des grands-parents. Parce qu'il y a un récent sondage léger, tu me disais, qui révélait qu'il y a des milliers de grands-parents en emploi qui jouent quand même un rôle essentiel dans l'équilibre des familles. On va se le dire, c'est difficile de trouver une garderie. Il y en a qui trouvent une garderie, leur petit poulet est rendu à un an et demi. Ils ont besoin de l'entourage pour aider. Puis la question qu'on se pose, c'est justement les grands-parents, est-ce que c'est la nouvelle face cachée de la conciliation travail-famille?
C'est intéressant, Audrey, de poser cette question-là. Tu sais, les entreprises, quand elles conçoivent le travail, la conciliation, souvent, elles pensent aux parents des jeunes enfants. Puis là, on va appeler ça conciliation famille-travail, comme tu le disais tantôt. Ou encore, les entreprises pensent à l'ensemble des employés, puis là, ils vont appeler ça conciliation vie personnelle-professionnelle. Mais ça fait qu'il y a des grands oubliés là-dedans, c'est les grands-parents. Parce que là, le sondage dont tu parlais tantôt démontre que 40 % des grands-parents s'impliquent dans la vie de leurs petits-enfants ou de leur famille à chaque semaine. Puis, généralement, ils le font par plaisir, mais on a un grand-parent sur trois qui travaille qui dit le faire par nécessité. Ça, oh. Là, c'est parce qu'on sait, Audrey, les grands-parents, là, c'est la roue de secours. Là. Ouais. C'est la première ligne pour aider les parents qui ont des enfants puis qui travaillent en même temps. Fait que, qui garde les journées pédagogiques? Qui va chercher les enfants s'il y a un petit nez qui coule à la garderie? Qui intervient en cas d'urgence? C'est notre très chère roue de secours. Alors, ce que ça fait, c'est que nos grands-parents aussi ont besoin de flexibilité, de conciliation. Mais là, présentement, c'est les grands oubliés. Moi, quand je regarde les données, ça me dit, serions-nous en train d'assister discrètement à un partage de la responsabilité de conciliation avec la génération plus âgée? Et là, présentement, c'est, comme on dit, c'est les grands oubliés dans le sens où eux ne sont pas les parents de ces petits-enfants-là. Donc, dans les politiques travail, famille, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas non plus des proches aidants dans cette histoire. Donc, c'est vraiment, ils tombent dans une craque.
Mais on parle de conciliation, on parle de flexibilité. On dirait que n'importe qui, pour n'importe quelle raison, en veut de la flexibilité. Moi, je pourrais demander de la flexibilité parce que de temps en temps, ça me tente d'aller voir une game de hockey à Montréal. Fait qu'à ce moment-là, ça tombe-tu un peu dans la relation de confiance que tu as avec ton employeur de « Hey, ben moi, j'aimerais avoir de la flexibilité » parce que telle situation familiale, ça m'aiderait beaucoup. Puis c'est ça, on tombe dans une relation de confiance de voici pourquoi j'ai besoin de la flexibilité. Puis après ça, c'est à l'employeur de décider ce qu'il fait avec ça.
Oui, puis ce qui est chouette dans ton exemple, Maxime, c'est que la façon dont tu l'exprimes, parce que c'est souvent ça qui se passe pour les grands-parents. Les grands-parents qui travaillent, ils ont une façon d'aborder leur employeur, puis souvent, ça crée de la mauvaise compréhension. Tu sais, je fais du pas sur ce que tu disais, Maxime. Moi, l'exemple là, qui me revient tout le temps en tête, 2022-23, quand nous étions au pic de la pénurie de main-d'œuvre, j'avais plein d'entreprises qui me disaient Hey Annie, on est super content. On a réussi à embaucher des employés très seniors. On les prend à temps partiel, puis tout le monde est content. Puis là, ils se disaient, ben là, tu sais, là, vendredi, Paul peut pas rentrer. Fait que j'ai demandé à mon employé très senior de remplacer. Puis là, lundi, mardi, c'est Pauline puis Paulin qui peuvent pas rentrer. Fait que moi, mon travailleur senior a remplacé tout le monde. Puis là, le gestionnaire et l'employeur se disaient, puis là, ils viennent démissionner. Puis tout le temps, les gens me regardaient en me disant, mais pourquoi il me l'a pas dit, mon travailleur senior, pourquoi il me l'a pas dit que ça convenait pas au lieu de remplacer tout le temps puis là, de démissionner? Bien, ça,
Ah.
c'est le cœur de l'histoire. Ils ne s'adressent pas à leur employeur de la même façon. Quand un travailleur senior dit, boss, pourrais-je peut-être mardi prendre mon après-midi, j'aurais besoin de passer à la garderie pour mon petit enfant, faut pas que l'employeur entende, boss, pourrais-je peut-être. Il faut que l'employeur entende, boss, j'ai absolument besoin que tu me libères mardi après-midi. J'ai une responsabilité.
C'est-tu
Donc,
générationnel, Annie? Parce que j'ai le sentiment que peut-être que la génération plus jeune aborde son employeur de façon différente. T'sais, on a dit dans les dernières années que les plus jeunes avaient donc bien le gros bout du bâton, puis c'était tannant, puis nous autres, dans le temps, fallait aller porter un CV, là, c'est eux autres qui décidaient, t'sais, puis, tandis que la génération un peu plus âgée, ben, eux, ils ont eu parfois seulement un emploi toute leur vie, puis ils se sentent redevants, si on veut, envers leur employeur, ça se peut-tu que ça a un lien avec ça?
bien, exactement. Il y a des arômes générationnels là-dedans, la façon de s'adresser à l'employeur, puis aussi le sentiment de légitimité, tant pour l'employeur qui reçoit une demande d'un grand-parent, puis tant pour le grand-parent de dire, puis-je, moi, imposer ça à mon employeur si c'est pas pour mon enfant? C'est ça qui revient dans l'histoire, et c'est pour ça que c'est pertinent, selon moi, d'en parler pour clarifier ça.
Fait qu'une entreprise qui veut être un peu avant-gardiste là-dedans, puis trouver des solutions, puis les amener les solutions avant que ça finisse par s'imposer un peu, comment cette entreprise-là pourrait faire?
Bon, la première chose, tantôt Audrey en parlait du bout des lèvres, c'est défaire cette espèce de mythe-là, de croyance, que si je suis un employeur et que j'inclus les grands-parents dans ma politique conciliation travail-famille, je vais aider les employés des autres organisations, des autres entreprises, voire peut-être même de mes concurrents. Parce que ça, c'est des employeurs qui se disent, c'est les parents qui ont la responsabilité de s'absenter pour les enfants, c'est pas les grands-parents. Les grands-parents le font sur une base volontaire, parce que ça leur convient. Puis ça, pour moi, c'est erroné. Parce que pour le grand-parent, c'est son enfant qui a besoin d'aide. Peu importe l'âge de l'enfant, c'est son enfant. Il s'est impliqué de la même façon. Donc, dans les politiques que les entreprises peuvent faire pour être avant-gardistes, la première chose, bon, offrir de la flexibilité d'horaire, tu l'as dit, Maxime, tantôt. Un autre élément, c'est l'aménagement des horaires puis la réduction du temps de travail. Ça revient dans tous les sondages auprès des employés très seniors. Ils veulent avoir accès à du temps partiel. Alors, à toutes les entreprises qui sont heureuses là, d'avoir ces petites perles comme employés, là, ces protecteurs pour éviter de faire des erreurs, parce que souvent, ils connaissent bien l'entreprise, puis c'est souvent eux qui forment puis qui coachent les plus jeunes. Alors, si on veut les conserver, il faut leur acquiescer à cette demande-là. Il y a une autre idée, puis je trouvais ça tellement intéressant, ils nous demandent d'avoir de la priorité sur le choix des vacances. Fait que je vous explique. Pensons à la chère semaine de relâche. Hein? Dans une équipe, que ce soit une politique formelle ou pas, quand c'est la semaine de relâche puis qu'il y a des parents qui demandent d'avoir cette semaine-là en vacances, bien, généralement, les entreprises puis les équipes vont acquiescer parce qu'ils savent bien que les gamins, ils ne sont pas à l'école. Mais avant d'ouvrir cette semaine-là à tous les autres employés, les entreprises pourraient offrir cette semaine aux grands-parents parce que, hein, notre roue de secours, là, notre première ligne. Qui pensez-vous qui va garder si ce n'est pas les parents la semaine de relâche? Alors, ça, c'est des façons de leur donner priorité pour les vacances. Une autre idée, c'est de leur permettre de fractionner leur journée de congé. Tu sais, on le disait tantôt, là, aller chercher pour un rendez-vous chez le médecin ou un petit nez qui coule, ça ne leur prend pas toute une journée pour faire ça.
C'est vrai.
Alors, ça convient mieux à leur horaire de leur permettre de couper leurs vacances en heures. Comme ça, bien, ils peuvent en prendre plus souvent puis ils n'ont pas besoin d'empiéter sur leurs vacances. Je vous en donne une dernière. Il y a présentement un travailleur grand-parent sur cinq qui travaille dans une entreprise qui a une politique de conciliation vie personnelle-famille. Excusez-moi, vie professionnelle-famille, évidemment. Puis, ils savent pas si la politique s'applique à eux. Ils savent pas si c'est juste pour les parents ou si ça implique les grands-parents. Ça, partager de l'information, là, ça ne coûte rien aux organisations. Puis ça rend les grands-parents plus légitimes de faire des demandes. Ça revient à ce qu'on disait tantôt.
Moi,
Fait que
j'aime
oui, il y
ça.
a des pratiques innovantes que les entreprises peuvent faire.
Je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que nos aînés sont de plus en plus sur le plancher. Je ramène ta statistique parce qu'elle me frappe un peu, Annie. Un aîné sur trois, tu disais, qui est obligé de travailler dans les conditions actuelles parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts.
Oui, effectivement. Puis c'est ça ce qu'on disait. On a un grand-parent travailleur sur trois qui sent la nécessité de travailler puis de s'impliquer dans la vie de leurs petits-enfants. Fait que oui, je trouve ça tellement inspirant quand tu dis ça, Audrey, parce que t'sais, c'est ça le demain, là. Il y a le aujourd'hui, mais c'est ça le demain,
Faut
le monde du travail
s'adapter,
de demain.
absolument.
Annie Boilard du réseau Annie RH, l'autre dossier qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui, c'est celui du prix de l'essence. On sait que ça a un impact sur à peu près tout le monde, directement ou indirectement. Je veux dire, on paye tout pour l'augmentation du prix de l'essence, ne serait-ce que par notre épicerie, parce que les camions qui amènent nos légumes à l'épicerie, ben, eux autres aussi ont besoin d'essence. Mais au niveau du monde du travail, puis c'est drôle parce que j'avais jamais vraiment pensé à ça, alors que ça touche clairement des auditeurs qui sont à l'écoute. Les entreprises qui vont pas toujours ajuster la prime de déplacement en temps réel, alors que...
Là, on est à près de 2$ le litre. Là,
la différence peut être importante. Pourquoi les entreprises n'ajustent pas cette indemnité de déplacement-là? C'est-tu parce que ça serait trop de paperasse parce que le prix de l'essence bouge trop?
Oui, c'est une excellente question, Maxime. Puis on va s'entendre, on sait que le prix de l'essence est élevé. Quand on fait le plein à la pompe,
Hey.
c'est surprenant, hein?
Oui.
Eh oui, moi aussi, la dernière fois, le souffle m'a coupé. Puis là, ben, pourquoi les entreprises, si tout le monde s'en rend compte, pourquoi les entreprises ne s'en rendent pas telles pas compte? Pourquoi elles ne mettent pas à jour cette indemnité? C'est parce que tu disais, c'est-tu parce que c'est trop compliqué? Effectivement, Maxime, c'est complexe. Puis là, mon but aujourd'hui, c'est pas de justifier les entreprises. Des fois, quand on comprend ce qu'il y a derrière le rideau, ça crée de l'indulgence. Mais c'est aussi de se dire, hey, est-ce qu'on pourrait faire allumer quelques petites lumières, là? C'est pas parce que c'est pas facile qu'on peut pas le faire. Nous, Réseau Annie RH, on l'a mis à jour, notre politique d'indemnisation pour les employés qui se déplacent. Si on est capable, les autres aussi sont capables. Alors, peut-être pour clarifier, cette prime dont on parle, là, c'est souvent dollars par kilomètre. Présentement, on parle souvent de 61 sous par kilomètre, 66 sous par kilomètre. C'est ça, là, dont on est en train de parler. Pourquoi on ne met pas ça à jour? Donc, pourquoi? La réponse, c'est que d'abord, c'est sur une base volontaire pour les organisations. C'est pas comme s'ils avaient une obligation. Ensuite, c'est vrai que c'est complexe. Parce que d'abord, elles travaillent habituellement, les entreprises, sur une tradition de mettre cette indemnité à jour annuellement. C'est la grande, grande majorité des entreprises s'alignent sur le gouvernement, ce que les gouvernements paient. Et le gouvernement le met une fois par année. Fait que c'est comme une roue. Fait que là, ça fait bizarre de se dire, on peut-tu faire ça en cours de cycle? Mais oui, on peut faire ça. Mais là, comme tu dis, Maxime, il faut la calculer, cette prime-là. Puis là, on s'entend, elle ne compense pas juste pour l'essence. La prime, elle est aussi là pour compenser pour les coûts d'assurance, l'entretien, l'usure du véhicule. Fait que là, l'entreprise, il faut qu'il fasse un effort intellectuel de se dire, OK, mais nous, de cette prime, quel est le pourcentage qu'on octroie à l'essence et quel serait le nouveau prix? Puis après ça, il faut rentrer ça dans un système de paie. Là, ça vous paraît simple, là, mais il faut déterminer des dates, puis des dates rétroactives aussi. Fait qu'il y a cette complexité. Puis aussi, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, quand est-ce qu'on va la remettre à jour, cette prime? Là, si le prix de l'essence continue de monter, est-ce qu'on le fait à 2 $, 2,25 $?
Il n'y a pas moyen, Annie, Là, ça, écoute, je connais tellement pas ça, là, mais c'est mon premier réflexe, c'est de me dire, on utilise l'intelligence artificielle maintenant dans le milieu du travail. Il n'y a pas moyen de... tu sais, mettons, avec des fichiers Excel, on est capable de faire des calculs en temps direct hyper facilement. Il n'y aurait pas moyen qu'avec la moyenne, mettons, du prix d'essence, de jour en jour, ça fluctue puis ça s'ajuste naturellement?
Oh, il y aurait moyen de tout faire, Audrey, je suis d'accord avec toi, mais je ne voudrais pas être la personne qui administre ça. C'est que là, ça crée un monstre
C'est
administratif.
sûr.
Mais il y a quelque chose entre les deux, tu sais, est-ce qu'on pourrait mettre l'indemnité à jour à chaque fois que ça monte, par exemple, de 20 sous, 25 sous, au moins 2 fois par année, tu sais. Mais il faut que l'entreprise ait un business case, il faut qu'elle soit capable d'expliquer son raisonnement. Puis là, ben, tu sais, il y en a d'autres, là, il y a des raisons, là, ben, par exemple, toute la notion de coordination avec les clients. Tu sais, c'est parce que des fois, les entreprises travaillent sur des ententes qui ont été ratifiées avec leurs clients avant l'augmentation du prix de l'essence. Alors là, s'ils paient plus cher à leurs employés, ils ne sont pas capables de repasser aux consommateurs l'augmentation.
Ce ne sont pas super rentables là-dedans, là.
Non, non, c'est une perte nette pour l'entreprise. Il faut qu'elle soit capable de le supporter. Fait qu'il y a cette notion de coordination aussi. Il faut que ça arrive, le timing arrive en même temps.
Je trouve ça super intéressant, Annie. C'est-tu un combat qui est sur la table depuis longtemps pour certains employés envers leur employeur, ça, ou c'est relativement nouveau de se mettre à penser à ça? Parce que moi, dire comme Max, ça m'avait jamais traversé l'esprit personnellement, là.
Mais tant que le prix de l'essence est stable et qu'on trouve que les indemnités sont raisonnables, habituellement, on parle plus des Canadiens qu'on parle du prix de l'essence puis de l'indemnité. Mais quand ça fluctue, c'est là qu'il y a des employés qui lèvent la main et qui disent « Hey, ça me coûte cher d'aller travailler » ou encore « Patron, quand tu me demandes de me déplacer pour le travail puis que tu paies mon déplacement, ça ne fonctionne plus des maths. » Alors, plus le prix monte, plus ça devient une question d'actualité. Mais c'est comme si, parce qu'on est enchâssé dans des traditions, les gens réalisent plus qu'on peut poser la question.
C'est vrai.
Alors que oui, on peut la poser, la question.
C'est pour ça qu'on te reçoit, Annie. J'ai envie de terminer en te demandant qu'est-ce que les gouvernements font ou peuvent faire, les entreprises ailleurs dans le monde, comment on gère ça, sais-tu?
Bien, c'est drôle que tu poses la question, Audrey, maintenant, parce que nous, on vient tout juste de ramener nos fonctionnaires de fédéraux. Pour certains d'entre eux, là, notamment les cadres, 5 jours semaine en présentiel, bien, dans d'autres pays, comme en Asie, par exemple, c'est l'inverse. Eux, ils ont adopté une législation qui impose à tous les fonctionnaires de télétravailler à temps plein parce que eux, leur quête, c'est réduire la demande de carburant à la base pour réduire le prix. Puis il y a des entités comme par exemple l'Entité mondiale de l'énergie qui recommande au gouvernement, puis là c'est un petit parallèle avec les entreprises, de réduire la vitesse sur les autoroutes de 10 km/h à nouveau pour réduire la consommation de carburant. Et pour les entreprises, moi, je me dis, les entreprises pourraient faire preuve d'indulgence puis laisser les gens arriver des fois une dizaine de minutes plus tard. Ça leur permettrait de rouler moins rapidement sur les autoroutes puis sur les routes puis réduire leur consommation d'essence. Là, je sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ils pourraient partir plus tôt, ces employés-là, de la maison. Oui. Mais des fois, on parlait tantôt de conciliation travail-famille. Des fois, il y a des garderies, des écoles qui ouvrent une heure spécifique. Les parents ne peuvent pas. On peut faire preuve d'un peu d'indulgence pendant cette période où le prix du carburant est élevé.
Annie Boilard du réseau Annie ARH pour te rejoindre, le www.réseau-annie.ca. Merci beaucoup.
Ça fait très plaisir. Bonne semaine à vous.
Bientôt,
salut,
Annie,
bonne
salut.
Semaine. À prochaine. Audrey Pinchot, bon match du Canadien ce soir.
Ah, merci, Max.
Je sais que t'es rendue une grande, grande fan.
Grande fan.
Déjà hâte de t'en reparler demain, d'avoir tes analyses sur tous les joueurs du Canadien et des Sabres.
Je te réserve toutes mes hot takes pour demain 11h.
Ta prédiction pour le match de ce soir?
Ah, je trouve ça tough, on dirait. J'ai le goût de dire 4-3.
Pour.
Ben, parce qu'il y a une partie de moi qui me dit que je peux pas croire que les Sabres se déniaiseront pas. Mais j'ai encore envie de croire que le Canadien va gagner. Parce qu'en réalité, il y a une petite partie de moi qui me dit que peut-être que ce soir, ils vont perdre.
OK.
Mais j'ai comme envie d'y croire. Fait que c'est la tête et le cœur, là. 4-3 Canadiens.
OK. 4-3 Canadiens. Moi, je suis allé avec un 5-4 Canadien.
Oh, OK.
Ouais, un bon match offensif ce soir. Là, ça va faire du bien. Ouais.
Ben, je nous le souhaite.
Good. On t'écoute dès 14h, Gravel, dans le retour. Merci beaucoup, Audrey. Dans le point de Max, au retour de la pause, un petit tour des nouvelles. Pascal CV va venir faire son tour et on se parle de ce très populaire palmarès des pires routes du Québec, signé CAA Québec. Il n'y a pas de route de la capitale nationale dans le top 10 des pires routes. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'on a le palmarès par région aussi. Puis je suis curieux de vous lire 418-971-1021 par texto. Vous autres, votre pire route là, sur laquelle vous avez à passer, c'est laquelle? 418-971-101, que ce soit dans Chaudière-Appalaches ou Capitale-Nationale. Je vais vous lire avec grand plaisir. 10h... Pourquoi j'arrête pas de dire 10h, Simonac? 11h28 dans le point de Max.
L'Open Mic avec...